André Dufour, 89 ans cette année, ancien résistant, nous a accordé cet entretien samedi 16 mars 2013. Préférant désormais cette forme parlée à la discipline du bloc-notes, qu'il tient sur Liberty Vox depuis 2005, nous avons décidé de reprendre la discussion à bâton rompu, adoptée lors de notre dernière conversation de décembre 2011. André nous livre ses réflexions sur le monde et ses souvenirs d'événements historiques qui marquèrent sa jeunesse, avec la liberté de ton que nous lui connaissons, et sans langue bois. La qualité du son n'est pas toujours au rendez-vous, veuillez par avance nous en excuser.
André Dufour, bonjour, ça nous fait extrêmement plaisir de t'entendre de nouveau, ça faisait pas mal de temps. On avait eu un article de ta part en septembre, et puis depuis, c'est un petit peu le silence. Je sais que t'as pas mal voyagé, comment vas-tu ?
J'ai les inconvénients de l'âge, mais l'avantage d'avoir atteint cet âge.
Oui, lors de notre dernier entretien, tu parlais des outrages de l'âge, et je remarque qu'à 89 ans, tout va bien, puisque tu passes, comme je disais, ton temps à voyager, que tu reviens du Canada, tu as été également en Belgique, en Normandie, oui. Et même dans les Ardennes, sur les lieux de ta jeunesse dans la Résistance.
Oui, enfin, je voyage tant que je peux.
Et donc, dans les Ardennes, tu as revu des camarades de la Résistance ?
Malheureusement, ils se sont éteints, il reste leurs enfants, et que je revois, effectivement. Deux, trois personnes qui n'étaient pas, que je ne connaissais pas à l'époque de la guerre, et qui en sont le descendant, qui se sont brouillés avec moi à la suite d'une dernière interview où j'ai tenu un langage politiquement incorrect qu'ils ne me connaissaient pas.
Il ne se pose pas la question de savoir comment quelqu'un qui a résisté au totalitarisme nazi ne comprend pas qu'il y a une suite logique dans ton engagement.
Non, parce que eux qui n'ont pas connu ça, pour eux, c'est de l'histoire apprise à l'école ou dans les livres, et ils ne savent pas que leur comportement déroule le tapis devant les nouveaux barbares qui vont bientôt les soumettre, leur faire regretter amèrement leur naïveté.
Et au Canada, quel a été ton sentiment
Eh bien, je vois au Canada beaucoup de Français et qui en ont marre de la France. Et ils en ont marre de payer des impôts pour entretenir des gens qui ne travaillent pas, pour laisser ouvert les vannes d'une immigration effrénée qui se poursuit alors que des usines se ferment. Je n'ai rien contre le Maghrébin, l'Africain ou le Rhum qui vient en France. Quand on leur offre les avantages sociaux et autres, je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Par contre, j'ai beaucoup de ressentiment contre nos élites, nos hauts fonctionnaires, nos politiciens, et qui ne prennent aucune mesure pour freiner cette immigration. Quand on a une barque qui peut contenir 6 personnes, on peut en prendre 8, mais on ne peut pas en prendre 24. C'est évident, voilà. Donc,
ce n'est pas le cas au Canada, ils n'ont pas de problème d'immigration.
Le Canada, ils sont demandeurs d'immigration, mais par contre, leur immigration est choisie. Par conséquent, on a le plaisir, quand on ouvre un journal, des journaux gratuits, il y en a pas mal, des petites annonces, eh bien, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de demandes. Il y a une immigration de Maghrébins qui, au départ, viennent de France, se disent réfugiés politiques, puisqu'ils ne peuvent pas exercer librement leur religion, paraît-il. Leurs femmes ne peuvent pas porter le voile. Et une fois arrivés là-bas, bien, ils ne sont plus français, ils sont arabes, ils sont musulmans. J'ai eu une scène un peu, je dirais, un peu gênante pour moi. C'était à Laval, le Noël il y a 2 ans. Une habitude à Laval, dans le quartier de Sainte-Rose, une église, à Noël, ils installent une crèche à l'extérieur, sur le parvis de l'église, et les gens des villages avoisinants, le soir, ils convergent torche à la main vers le parvis de cette cathédrale. Et là, il y avait une foule d'hommes, de femmes voilées, d'hommes barbus, qui venaient d'un quartier de Laval, véritable enclave, et ils étaient là, oh, ils ne manifestaient pas, ils n'écriaient pas, mais ils étaient là, avec un regard réprobateur, et ça a fiché en l'air l'ambiance naïve et belle, enfin traditionnelle depuis que, et l'année suivante, et puis leur revendication à voix basse, au dehors de l'église, il ne devrait pas y avoir des signes religieux, idolâtres, qui blessent le regard des musulmans. Toi, tu ne me croiras pas, l'année suivante, ce Noël, il n'y a pas eu de crèche sur le parvis, mais à l'intérieur de l'église. Alors, le gouvernement québécois, lui, parle d'accommodement raisonnable, c'est-à-dire il faut faire des concessions aux uns et aux autres. Mais ceux qui ne savent pas, parce que je crois que ça part d'un bon naturel, mais ne comprennent pas que la structure mentale d'un islamo, c'est qu'ils sont dans un autre univers que nous. Ils n'ont pas cet esprit cartésien, ils n'ont pas le sens de la réciprocité. Et les accommodements, c'est toujours un sens unique. Par exemple, les musulmans me disent, on est libre, on n'est pas raciste, on peut épouser des femmes ou des hommes de n'importe quelle origine. Oui, mais ce qu'ils n'ajoutent pas, c'est que, à condition que la personne qui se marie avec une musulmane ou un musulman se convertisse au préalable. Et dans l'autre sens, un musulman ou une musulmane qui se convertirait au christianisme ou au judaïsme, eh bien, se ferait égorger ou lapider. Voilà, par sa propre femme.
Est-ce que tu as pu observer au Québec le même phénomène qu'on observe chez nous, en France ou en Belgique, c'est-à-dire d'alliance objective entre l'islam et, on va dire, pour faire simple, les gauchistes, une sorte d'islamo-gauchisme?
Oh, c'est même évident. Un petit exemple, il y a depuis 3-4 ans, un mouvement qui appelle à boycotter les produits israéliens. Des piquets de 15-20 personnes, banderoles déployées et panonceaux annonçant que l'Israël est un pays d'apartheid, de discrimination, enfin bref. Leur politique, c'est de rapprocher Israël de l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid.
Et ça consiste en quoi pratiquement? Donc ils se mettent dans la rue des piquets?
Alors voilà, alors ils sont là, puis on voit une femme qui entre dans le magasin, et alors ils l'interpellent et lui disent « Vous n'entrez pas là-dedans, ce sont des Juifs qui vendent des chaussures venant d'Israël. » Alors premièrement, le dit magasin n'est pas tenu par des Juifs, mais par des gens, je mets entre guillemets, « normaux », à savoir ce que c'était normal. Mais par contre, ils vendent effectivement un pourcentage de modèles de chaussures importés d'Israël et dont la qualité est appréciée au Québec. Alors, cette femme brosse les épaules et puis ressort avec un paquet. Et on répète, vous ne nous avez pas écoutés, vous avez acheté des chaussures qui viennent d'Israël. Et alors, dit-elle, eh bien, vous encouragez l'apartheid, la discrimination, les atteintes aux droits de l'homme, et ainsi de suite. Alors,
donc,
qui
en fait,
est
dedans? C'est de l'intimidation, finalement.
Oui, c'est de l'intimidation verbale. Mais par contre, si on l'a bousculée, si on l'a touchée, elle peut, et qu'elle crie, les flics qui ne sont pas loin interviennent. Et là, et contrairement à la France où les syndicalistes peuvent tout saccager, ils sont amnistiés d'office, là-bas, les voies de fait sont sanctionnées. Bon, alors qu'y a-t-il dans ces piquets? Ben, il y a des petits gauchistes, on le reconnaît là, avec le petit foulard, comme ça s'appelle, le képi palestinien. Et puis les jeunes, les plus jeunes ont un petit ruban rouge qui est l'emblème de ceux qui pendant 2-3 ans ont emmerdé le monde en manifestant contre la hausse des droits universitaires. Et puis il y a quelques barbus, oui, il y a quelques barbus, il y a quelques femmes avec un foulard, mais pas trop. Alors il y a cette alliance entre ces gauchistes et ces musulmans.
Oui, j'observe que ce qui est assez, enfin, j'allais dire amusant, le mot est mal choisi, mais j'observe que il reprochait aux tenanciers du magasin d'être juif. Donc, ce n'est pas un rapport direct à Israël, finalement.
C'est là que ça dérape. Alors oui, mais leur excuse, c'est que le dirigeant de l'association Israël-Palestine, enfin, pour la paix en Palestine, eh bien, il s'appelle Katz et il est juif. C'est vrai. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que depuis toujours, l'extrême gauche communiste, selon l'évangile, selon Saint Karl Marx, considère que les juifs ne sont pas un peuple mais une classe sociale et qu'en conséquence, lorsque le capitalisme sera aboli, il n'y aura plus de juifs puisque cette classe sociale n'aura plus d'assises. Je connais des juifs heureux. C'est les pauvres, ceux qui vivent de la bienfaisance et qui apprennent qu'ils sont de la même classe sociale que Rothschild. Mais bon, mais c'est comme ça. Alors, ils n'ont pas bougé d'un iota et ces juifs communistes ont toujours combattu le sionisme, toujours. Et actuellement, c'est pareil. Quand un juif est anti-sioniste, eh bien, tu peux être certain, c'est soit un stalinien inconsolable, soit un trotskiste, ou quelque chose de comme ça.
Ça fait penser un petit peu à Stéphane Hessel.
Voilà, la différence, c'est que Stéphane Hessel est un escroc. intellectuel puisqu'il n'a jamais été juif. Stéphane Hessel est de mère allemande arienne et de père fils d'un juif converti au protestantisme. D'accord. Chacun est libre d'être ou de ne pas être catholique ou de ne pas être catholique. Mais là, Stéphane Hessel n'a rien de juif. Non seulement ça, quand on connaît la mentalité qui régnait dans les milieux allemands au cours du siècle écoulé, eh bien, ceux qui se convertissaient, sauf les opportunistes pour faire carrière, eh bien, n'avaient aucune sympathie pour les juifs et même étaient antisémites. Et je crois que Stéphane Hessel en veut aux juifs pour une seule raison. Il a quelques gouttes de sang juif dans les veines, mais c'était trop aux yeux des nazis, sinon il aurait fait un parfait dignitaire nazi.
Je pense que Stéphane Hessel, et tu l'avais écrit dans je ne sais plus quel article, et plutôt de ceux qui aiment les juifs, oui, les juifs quand ils sont morts dans les camps de concentration, mais pas les juifs vivants.
C'est un peu le propre de tous ceux, de nos hommes politiques, même de nos journalistes et autres. On aime les juifs, ceux qui ont eu le bon goût de se faire gazer à Auschwitz, mais on déteste Israël parce que là, c'est le pays des juifs qui se battent. Israël a fait en sorte qu'on ne peut plus attaquer un juif, qu'on ne peut plus égorger un juif sans risquer sa propre vie. Et oui. ça fait des ordres.
Mais en même temps, c'est vrai que les mêmes juifs marxistes, ou pas forcément marxistes, vont se servir de, par exemple, de la Shoah, de l'extermination des juifs d'Europe, comme d'une arme de censure aussi massive, souvent.
C'est un détournement de l'arme. Et Stéphane Hessel véhicule cette idée. Et d'ailleurs, n'est-ce pas je ne sais pas si c'est Jean-Marie Le Pen ou Stéphane Hessel qui a écrit que tout compte fait, l'occupation allemande en France n'était pas si terrible que ça, alors, à part quelques tableaux qu'ils ont volés.
Non, Jean-Marie Le Pen avait dit que comparé à d'autres, oui, à d'autres pays occupés, l'occupation allemande en France avait été moins sanglante, on va dire, que l'occupation dans d'autres pays.
Plus supportable.
Voilà.
Oui,
alors que Stéphane Hessel lui a dit que l'occupation, il comparait l'occupation israélienne de territoire occupé à l'occupation nazie en disant qu'elle était pire que l'occupation nazie.
Exact. Et c'est là que je voulais en venir.
Il n'a pas été condamné.
Mais à partir du moment où c'est signé Le Pen, c'est très grave, c'est comment ils disent. Nauséabond,
tout à fait.
Nauséabond,
oui.
C'est le mot. Alors que signé SN, ça devient de indignez-vous, c'est beau, c'est noble, c'est.
Peut-être, je te soumets peut-être une thèse, peut-être le fait que SN soit plutôt de l'école marxisante l'exonère justement de cette accusation, alors que, ma foi, les crimes du marxisme, les crimes du communisme, eux, passent comme lettre à la poste.
Lorsque l'on est d'extrême droite, on est forcément nazi, ce qui n'est pas toujours vrai, mais par contre, le PS n'a pas craché sur les voix des extrémistes de gauche, qui ont quand même à leur actif, là où la gauche a été au pouvoir sans partage, entre le bilan de la Chine, de la Russie, de l'Union soviétique et du Cambodge, il y a quand même plus de 100 millions de morts. C'est un tableau de chasse qu'Hitler leur aurait envié. Je ne dis pas qu'Hitler c'était bien, mais enfin, alors je ne vois pas pourquoi un crime commis par les uns est politiquement correct qu'un crime commis par les autres.
Comment expliques-tu, puisqu'on parle de Stéphane Hessel, cette espèce d'hystérie qui a entouré sa mort, où certains parlaient même de le faire entrer au Panthéon, cette espèce de transformation de Hessel en saint laïque
Je crois que Stéphane Hessel, il a été fabriqué par le Quai d'Orsay essentiellement. D'ailleurs, il était employé au Quai d'Orsay. Ils ont fabriqué un personnage creux, sans passé, fait en grande partie de mensonges, comme le fait d'avoir laissé croire qu'il était un des co-auteurs de la Déclaration des droits de l'homme, et universelle des droits de l'homme, alors que j'ai eu le bonheur et l'honneur de côtoyer René Cassin. Je l'avais félicité pour avoir écrit la Déclaration des droits de l'homme. Il m'a dit, mon pauvre ami, ce n'est pas mon œuvre, c'est une œuvre collective. Et il a cité pour chaque pays ceux qui ont participé à la rédaction. Mais il n'y avait pas de Stéphane Hessel là-dedans. Peut-être qu'il portait le tampon buvard pour sécher les signatures. Il n'a jamais eu ce rôle, de même que la résistance de Stéphane Hessel. Elle s'est d'abord effectuée à Londres, ce qui est plus confortable que de l'effectuer à Paris. Ou en France. Et puis deuxièmement, curieux, il a été arrêté par les Allemands et il en est sorti indemne. J'ai connu des résistants arrêtés par les Allemands et qui, lorsqu'ils ont eu la chance de s'en sortir, eh bien, s'étaient mutilés pour le restant de leur vie. Ça a été entre autres le cas du colonel François Delarocque, qui lui a refusé de collaborer avec Pétain et qui a été déporté. Et il est sorti amoindri et puis il est mort peu de temps après des suites de sa déportation.
Pardon ? Tu as connu Delarocque ?
Ah, j'ai connu pas Delarocque, mais son fils, avec lequel je m'étais lié d'amitié, qui est décédé aussi. Il m'a remis entre les mains des brochures d'avant-guerre dans lesquelles il dénonçait avec véhémence l'antisémitisme allemand, bien sûr, mais en France également. Et il n'a jamais de Delarocque n'a tenu de propos antisémites. Mais ce sont les communistes qui, après-guerre,
intoxiqué tout le monde.
Voilà, bon, donc. Et puis, il leur faisait un peu honte parce que les communistes ont attendu que la Russie soit attaquée par l'Allemagne pour dire, tiens, on est des résistants.
Oui, c'est-à-dire à la rupture du pacte germano soviétique.
Bah, ça date de
1941.
Leur résistance date de juin 1941, tout simplement.
Comment ont-ils justifié, d'ailleurs, toi qui as vécu cette époque, juste la bascule entre les deux discours, entre le discours finalement collaborationniste et le discours guerrier?
Bien, je crois que ça nous ramène à la versatilité, et, disons, des extrémistes, d'extrême droite et d'extrême gauche. Ce qui est leur dénominateur commun, ce n'est pas telle ou telle idéologie, c'est le totalitarisme, c'est l'antidémocratie, et de ce côté-là, les islamistes et les trotskistes, ou les staliniens, ou les ex-staliniens, sont de la même école. Et ils sont interchangeables.
Eh oui, mais il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme.
Ah bah non, d'ailleurs le plus cocasse, c'est qu'au tribunal de Nuremberg, parmi les juges, il y avait les soviétiques, je crois qu'ils s'appelaient Vichinsky, et Jamon on a demandé aux Russes des comptes sur l'extermination des officiers russes à Katyn.
Les Polonais.
L'exécution des officiers polonais à Katyn, ce qui est un crime de guerre, fait prisonnier par les Russes qui sont venus en envahisseurs et qui ensuite sont fusillés ou une balle dans la nuque, quoi, parce que fusiller, c'est encore une cérémonie honorable. Eh bien, c'est un crime de guerre, entre autres, sans parler des goulags. Bon, eh bien, non, ça, c'est exonéré. Il y a une espèce d'amnistie mémorielle. Oui, c'est comme maintenant, rapprochons-le, les syndicats ont obtenu que tous les actes de vandalisme commis par les syndicalistes sont amnistiés. Et c'est le Parlement et non pas les tribunaux qui en ont décidé ainsi. Oh, si je devais parler des politiciens et des médias qui sont à leur service, je dirais que les médias et les politiciens sont à l'école de Joseph Goebbels. Il y a le mensonge à l'état brut ou par détournement du sens. Il y a la censure sur certains faits, leur qualification différente. Quand des jeunes maghrébins attaquent un train et font du pillage, on commence par dire qu'on ne dira pas qu'ils sont maghrébins ou africains, on va dire que ce sont des jeunes. Il se trouve que ce jeune-là, et d'ailleurs ça doit être une très bonne religion, l'islam, puisqu'on est jeune entre 15 et 45 ans. C'est comme ça. Donc, chez les Occidentaux, on est jeune entre 15 et 20 ans, et après, on est adulte.
Je suppose que tu as entendu parler du livre de Laurent Oberton, La France orange mécanique, où ce journaliste parle justement des chiffres réels de la criminalité en France, très loin des chiffres annoncés. Et de l'espèce de polémique où tous les médias lui sont tombés dessus, les médias bien pensants, critiquant les chiffres, le traitant de fasciste, de nazi.
Alors
etc.
Là, c'est le mot, justement. On peut ne pas être d'accord sur telle conclusion, sur telle formulation. Eh bien, entre gens civilisés, dans un pays démocratique, on écoute les uns, on écoute les autres. On critique l'idée, on ne critique pas la personne. Or, maintenant, les médias, les hommes politiques se comportent en facho. On se sent, si tu n'es pas d'accord avec moi, t'es une ordure, t'es une vipère lubrique, t'es un vendu, enfin, t'as droit, t'es un nazi, t'es un raciste, t'es un islamophobe. Bah, ce que islamophobe ne me dérange pas, effectivement, je n'aime pas l'islam. Bon, c'est mon droit le plus absolu. Je n'aime pas l'islam comme je n'aime pas l'hitlérisme, comme je n'aime pas le stalinisme.
Mais nous sommes dans une forme de déni du réel, et ce qui est étonnant dans la polémique sur Oberton, c'est justement ce déni du réel, où pourtant ces chiffres sont pas, c'est pas lui qui a inventé les chiffres, c'est les chiffres qui existent, mais même devant la réalité, c'est-à-dire qu'il annonce quand même un nombre de viols, genre 200 viols par jour, enfin des chiffres astronomiques, et au lieu de se dire il faut lutter contre cette criminalité, on attaque le porteur de mauvaises nouvelles, on attaque celui qui fait sauter le verrou du déni du réel.
Eh bien, nous avons une illustration dans une récente émission de télé. Je ne la regarde pas souvent, mais là, je l'ai prise en route. C'était « On n'est pas couché ». Oui. Ben, il se trouve qu'effectivement, j'avais de l'insomnie et donc j'ai regardé. Il y avait Véronique Genestre, oui, et Chéruquier.
Bon. Oui.
Eh bien, il fallait voir comment, parce qu'elle avait dit des choses... alors oui, parce qu'on lui a dit, on lui a laissé entendre qu'elle n'est pas crédible puisque son mari est juif. Ah, mais ça doit être grave, elle est souillée, elle partage le lit d'un juif. Vous vous rendez compte? Alors, il y avait deux censeurs. Autrefois, c'était... Et rééquilibré, il y avait la présence d'un Éric Zemmour, mais il n'était plus suffisamment correct, on l'a viré. Donc il y avait Natacha Polony et Émeric Caron. Alors Natacha Polony, elle est, comment devais-je dire, elle est plus lisse dans ses insinuations. Je dirais qu'elle est lisse comme un suppôt glycérine. Bon, mais enfin, elle finit quand même par lâcher sa merde. Par contre, Émeric Caron...
Un procès féminin.
Ah oui, tout à fait. Pointant du doigt. Où avez-vous ça? Où avez-vous trouvé ça? Donnez-moi des exemples. Citez-moi des chiffres. Alors évidemment, lui, il avait ses petits papiers. Et par contre, ce que la brave Véronique Genest, elle n'est pas venue. C'était pas le sujet de son invitation. Mais bon, je la trouve admirable d'ailleurs. Et alors, quand je vis ce regard haineux d'Émeric Caron et pointeur du doigt, je repensais, ça s'est passé je crois dans les années 1966, le procès Daniel Siniavski, de poète soviétique, évidemment qui faisait partie des intellectuels politiquement incorrects, mais voilà qui passe au tribunal. Ils ont de la chance parce que sous Staline, ils auraient déjà été immédiatement au goulag et peut-être la balle dans la nuque. Bon. Et alors, la camarade juge, qui est une ancêtre de cet Émeric Caron, et disait, camarade, vous prétendez poète, mais quelle est donc l'autorité qui vous a décerné ce titre? Et bien, ce monsieur Émeric Caron, qui à mon avis... est un vrai connard, je risque le procès, mais eh bien, c'est tout à fait l'inquisiteur stalinien, haineux, il n'est même pas drôle. Et puis le Ruquier, avec le regard béat, heureux, comme ça.
Rigolard.
Rigolard, oui. Ah non, moi, je ne trouvais pas ça rigolo. J'avais des sueurs froides dans le dos à l'idée que ce Émeric Caron serait un jour au pouvoir et serait juge avec le pouvoir d'envoyer quelqu'un au peloton d'exécution. Moi, ça me fait froid au dos.
Ils sont au pouvoir, tu as des Taubira, t'as des gens comme ça.
Oui, mais bien sûr, il y a encore le pouvoir, mais ils ont encore quelques organes gouvernementaux qui les freinent. Il y a encore un Sénat où ils sont quand même majoritaires, mais ils ne peuvent pas... Ils sont encore obligés de prendre quelques formes.
Mais
nous sommes dans le totalitarisme. Dans un pays où dans une émission sur une chaîne publique, tout de même. Je crois qu'on n'est pas couché. Je ne sais pas sur quelle chaîne.
France 2.
C'est France 2. Donc une chaîne publique. Une chaîne que tu entretiens, que j'entretiens par mes cotisations. Je trouve qu'on n'est plus en démocratie. Ça veut dire on vole le citoyen, on détourne ses cotisations. Moi, je paye pour que je puisse aussi entendre Éric Zemmour.
Mais politiquement correct aujourd'hui, ça consiste à... Au moment de l'élection de Benoît XVI, elle traitait de nazi. Au moment de l'élection du François Ier, de dire qu'il était, qu'il soutenait la junte militaire argentine. Il y a tout de suite immédiatement ce procès, je pense. Que...
Ah oui, mais alors, puisqu'on parle de l'élection de François Ier, ça m'amuse toujours parce que François Ier, pour moi, j'ai un repère 1515 Marie. Et je dirais ceci, bon, je ne suis pas baptisé, je ne suis pas religieux, mais j'aime bien me référer à quelques lignes écrites par Anatole France dans sa préface à son livre « Thaïs ». Je touche en ce livre à des choses grandes et délicates, aux choses religieuses. J'ai refait le rêve des âges de foi. Je me suis donné l'illusion de vive croyance. C'eût été trop manqué de sens de l'harmonie que de traiter sans piété ce qui est pieux. Je porte aux choses saintes un respect sincère. Je sais qu'il n'est pas de certitude hors de la science, mais je sais aussi que les vérités scientifiques ne valent que par les méthodes qui y conduisent et que ces méthodes sont inaccessibles au commun des hommes. C'est une méthode peu scientifique de croire que la science puisse un jour remplacer la religion. Tant que l'homme sucera le lait de la femme, il sera consacré dans le temple et initié à quelques divins mystères. Il rêvera. Et qu'importe que le rêve mente s'il est beau. N'est-ce pas le destin des hommes d'être plongés dans une illusion perpétuelle? Et cette illusion n'est-elle pas la condition même de la vie? Qui aurait pu croire que ce texte a été écrit par Anatole France, qui est le prototype même de l'incroyant, de l'homme sans foi? Et je dirais une chose, puisque la religion est une illusion, mais qui est la condition même de la vie, je préfère encore l'illusion religieuse à l'illusion marxiste. Car en fin de compte, si les religions ont fait beaucoup de morts, le dogme marxiste en a fait encore davantage. Alors je ne vois pas en quoi je puisse traiter avec mépris, sans respect, un événement qui touche à la religion. Je dirais aussi pour le politiquement correct, puisque Israël est constamment en position d'accusé, un peu comme Daniel Siniavski, dont on conteste la légitimité.
Puis j'ouvre une parenthèse, je remarque que tu parles très souvent d'Israël, ça a l'air d'être un sujet qui te tient à cœur. Qu'est-ce qui fait justement que ça te tient autant à cœur? On a l'impression qu'il y a quand même de ta part une posture quasi morale dans le soutien que tu portes à ce pays.
Eh bien, je repense, je crois que c'est le pasteur allemand Begner, et j'ai vécu assez longtemps pour voir la montée de l'hitlérisme. Et l'avant-garde de l'idéologie nazie, ça ne pouvait pas être Mein Kampf, parce que là-dedans, il parlait de revanche de l'Allemagne, de la domination de l'Allemagne sur les autres peuples. Et ça, ce n'était pas de la bonne propagande. Mais il a trouvé que sur un point, un dénominateur commun, il arrive à se rallier des sympathies dans tous les pays d'Europe. C'était l'antisémitisme. Lorsqu'en 1939, Hitler organise à Berchtesgaden une conférence sur la solution du problème juif en Europe. Il envoie son premier ministre. La France n'envoie qu'un observateur. Il était question de déporter tous les juifs d'Europe vers loin. Et la solution retenue par les nazis, c'était Madagascar. J'aimerais bien voir les archives du Quai d'Orsay. Je ne sais pas si le Quai d'Orsay a été acquiescé ou pas. En tout cas, il n'y a pas de trace d'un désaccord là-dessus. Et puis, la guerre a éclaté. Évidemment, l'affaire de Madagascar était devenue caduque, puisque inabordable. Et finalement, les Allemands ont opté pour la déportation vers la Pologne pour y ériger des camps d'extermination. L'extermination des Juifs n'est pas une invention d'Hitler. Et Joseph Proudhon, le père du socialisme français, qu'il n'aimait pas les Juifs, mais il n'aimait pas non plus les Belges. Une amie m'a un jour demandé pourquoi les Belges. Et dans ses carnets, publiés à titre posthume, il faudrait déporter les Juifs dans l'Asie où ils sont originaires, mais si on ne peut pas les y transporter, faute de moyens, eh bien, il faudrait les exterminer sur place. Donc, la Shoah était déjà en germe dans un socialiste. Il a ensuite suffi d'ajouter national-socialiste, et je crois que Proudhon était un peu national-socialiste, puisqu'il est, il n'aimait pas les étrangers. Eh bien, je pense que l'idée de la Shoah n'est pas une idée d'extrême droite, comme on le laisse croire, mais la gauche y est pour quelque chose aussi. Bon, mais ça, je suis en train de blasphémer. Je ne retire pas ce que je dis, mais je n'irai pas plus loin.
Quel parallèle fais-tu entre ces événements d'avant-guerre et de la Deuxième Guerre mondiale et Israël aujourd'hui?
Alors, je retrouve justement, il y avait un matraquage de propagande, et il y avait déjà le recours à la désinformation qui a été érigée en véritable science, consciemment. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que les bolcheviks y allaient de leur côté aussi à coup de désinformation. Et justement, le maître de cette désinformation, de cette propagande, s'appelait Joseph Goebbels. Et il faut dire qu'il était génial, on peut le dire. Seulement, ce qui est grave, c'est que nos journalistes et nos hommes politiques sont exactement sur la même voie maintenant. On a l'impression... Alors eux, ils ont une double hérédité. Ils ont l'antisémitisme nazi et ils ont l'antisémitisme stalinien. Alors, mais comme le mot antisémite depuis la Shoah est devenu un mot nauséabond, alors Staline déjà, quand il a voulu commencer une campagne antisémite, et il l'a fait lorsqu'il a vu que le nouvel État d'Israël s'alignerait plutôt sur les États-Unis que sur l'Union soviétique, il a changé de fusil de paume, puis s'est tourné vers le monde arabe, et pour ça il s'est mis à persécuter les Juifs. Il en a même fusillé, il a fusillé des écrivains, des poètes, des acteurs d'expression yiddish, il les a tous fusillés, et ça c'était après 1945. Mais seulement on ne peut pas tuer des Juifs, puisque la Constitution soviétique interdisait l'antisémitisme. Eh bien, c'est Staline qui a inventé le mot, enfin, il n'a pas inventé le mot, mais qui a inventé l'usage, la substitution du mot sioniste au mot juif pour traquer le juif. Donc, on ne traquait plus le juif parce qu'il est juif, on le traquait parce qu'il est sioniste. Et il y en a eu des morts avec ça. Alors ça, je m'intéresse donc, pour moi, l'antisémitisme est un signe annonciateur du totalitarisme. Nous avons évoqué tout à l'heure cette espèce d'inquisiteur dénommé Caron. Dès qu'on fait une référence qui n'est pas défavorable à Israël, on est suspect. Pour moi, je me dis que ça, c'est ça prépare le terrain à un nouveau totalitarisme. Parce que on le fait maintenant parce qu'on a... pour complaire aux États arabes dont nous sommes de plus en plus dépendants financièrement d'abord. Et puis, je ne sais pas, nous vivons dans une trouille, on a peur. On a peur de l'arabe. Et le petit gamin qui attaque un conducteur de bus, il le sait. Et j'ai entendu un de ces gamins me dire « Oh, on ne peut rien nous faire, ils ont peur de nous ». Alors ça, c'est révélateur. Le gosse ne sait pas adapter son langage à l'auditoire. Il y va propos.
En résumé, donc, tu assimilerais les pays arabes entourant Israël ou les causes arabes, palestiniennes et autres, tu les assimiles à des antisémites ou j'ai mal compris?
Est-ce que tu veux me dire combien de synagogues il y a en Arabie Saoudite? Je poserai la question, combien y a-t-il d'églises catholiques, combien de temples protestants en Arabie Saoudite? Est-ce qu'en Égypte, où les Coptes constituent plus de 10% de la population, est-ce qu'ils ont les mêmes droits et qu'ils sont des Égyptiens authentiques? Ils étaient là avant les envahisseurs arabes. Eh bien, peut-on soutenir que les Coptes ont les mêmes droits que les musulmans? Qui pourra le soutenir?
Personne, mais j'observe que tu parlais d'antisémitisme, maintenant tu parles d'antichristianisme, mais j'observe que dans le berceau du christianisme, à savoir quand même Israël, À part en Israël, je pense que c'est le seul pays où les chrétiens peuvent vivre leur foi sans entrave.
Eh bien, j'ai connu comme touriste Israël du temps où tout le territoire où la Judée et la Samarie étaient sous occupation. J'ai visité Bethléem, et à Bethléem, la majorité de la population était chrétienne. Ces derniers temps, moi, j'y suis plus retourné, mais... ceux qui en reviennent me disent que la majorité de la population est musulmane. y a de moins en moins de chrétiens, et beaucoup d'émigration, et pas mal de chrétiens qui vont s'installer en Israël, de sorte que Israël est le seul pays du Proche-Orient où le nombre de chrétiens augmente. Ça veut dire quand même quelque chose, il faut l'interpréter. Mais je reviens à l'antisémitisme et à Israël. De même que Hitler s'est servi du juif, de la haine du juif comme appât pour, inhiber les peuples de l'Europe, eh bien actuellement, le nouveau totalitarisme qu'est l'islam, il a toujours été totalitaire, mais il n'avait pas le moyen de son idéologie. Mais maintenant, avec une croissance démographique exponentielle, avec d'énormes richesses fournies par les ressources pétrolières, richesses très peu partagées au profit du peuple d'ailleurs, la misère des Arabes, elle est secourue par les pays occidentaux, par l'ONU, mais pas par les États arabes.
Non, et... ils soutiennent le djihad.
Pardon ?
Eux, ils soutiennent le djihad.
Ah bah, ils soutiennent le djihad. Double tranchant, parce que l'islamisme radical n'accepte pas les frontières nationales, y compris les monarchies. Alors, je pense que les monarques du Golfe et de la péninsule arabique subventionnent le djihad, ils achètent leur tranquillité en quelque sorte. Mais ils oublient une chose, si ces djihadistes prennent effectivement le pouvoir dans les terres de conquête, eh bien, tôt ou tard, les monarchies et les émirats tomberont aussi.
Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, puisqu'on en parle, de la volonté du gouvernement français, exprimée à travers Laurent Fabius et François Hollande, de livrer des armes aux rebelles, entre guillemets, syriens?
C'est une connerie monumentale, et j'avais des démangeaisons pour écrire déjà à l'époque où on parlait du printemps arabe, mais seulement j'avais des problèmes de santé qui m'ont empêché de prendre la plume pendant plusieurs mois. Et c'est une vaste escroquerie. D'ailleurs, il y a une escroquerie inventée par les Occidentaux et pas par les Arabes eux-mêmes. Le printemps arabe, ce n'était jamais... Il y avait une chose logique. Pour renverser un pouvoir, le pouvoir qui le remplacera sera forcément la tendance la mieux organisée, la mieux structurée. Les seules organisations structurées dans le monde arabe ou musulman, ce sont les frères musulmans, ce sont les islamistes. Alors il est certain, d'ailleurs on l'a vu en Libye, un malheureux diplomate américain, très favorable aux Arabes d'ailleurs, très favorable à la cause arabe, qui arrive à Benghazi et qui se fait lyncher, déchiqueter vivant, et son cadavre profané. Alors regarde l'Égypte, et on ne peut pas dire qu'avec Morsi c'est le printemps. Et la Syrie c'est quoi? Eh bien c'est une dictature, certes. Mais à condition de ne pas te mêler de politique, tu peux être musulman, tu peux être un sunnite, chiite, chrétien, et de toute obédience. Il y a un équilibre à peu près supportable. Mais par contre, ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui se battent, ce sont des islamistes. Et il y a des petits, évidemment, il y a toujours des idiots utiles de ces islamistes, des hommes de gauche qui croient réellement à la démocratie, mais... La base culturelle du monde musulman ne peut pas être démocratique. On parlait du christianisme. Au moins dans l'évangile, dans le christianisme, il y a à la source un partage de pouvoir, dit par Jésus lui-même d'ailleurs. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis la parabole de la pièce de monnaie sur laquelle il dit César, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, Jésus, qui n'est peut-être pas le fondateur, mais l'inspirateur du christianisme, fait la distinction entre ce qui est spirituel, qui n'est pas de ce monde mais qui relève du ciel, et le temporel qui relève du pouvoir, César ou quelqu'un d'autre. Or, on ne va pas me faire croire quand même que c'est un abus humanitaire quand on va envoyer des armes aux rebelles, parce qu'ils tueront autant de gens que le pouvoir légal, entre guillemets.
Alors, qu'est-ce qui les motive, d'après toi? Qu'est-ce qui motive les socialistes à vouloir aider les islamistes syriens?
Parfois, on cherche des raisons rationnelles à tout ce qui se fait. Je crois que c'est ça qui est en train de perdre le monde occidental. C'est l'irrationnel qui triomphe. L'hitlérisme avec sa folie génocidaire de juifs, c'était vraiment irrationnel. Réservant en priorité des trains pour déporter les juifs vers les camps de la mort alors que sur le front russe, les munitions, les renforts n'arrivaient pas faute de moyens de transport, était-ce rationnel? Mais ils étaient prisonniers d'un dogme. Or, l'Europe est sombre dans le dogme de l'humanitarisme universel, de l'égalité entre tous les hommes, surtout de l'égalité entre toutes les cultures. Les cultures ne sont pas toutes égales, les religions ne sont pas toutes égales, parce que à travers le temps, elles ont suivi des évolutions différentes. Ils oublient une chose, c'est que la prise du pouvoir par les rebelles actuels ne donnera aucun avantage à la France. On va dépenser beaucoup de fric, c'est quand même curieux. On dépense déjà des sommes énormes pour le Mali, on est fauché, on engage des troupes, on engage de l'argent, ça coûte la guerre. Et puis maintenant, en Syrie, or, je constate qu'en Mali, la France est toujours seule à se battre, et même les pays africains, il n'y a qu'un seul pays qui a envoyé quelques renforts crédibles, c'est le Tchad. Pour les autres, pour le reste, même les Maliens, on ne voit pas grand monde pour combattre les djihadistes.
Alors, je te soumets une hypothèse. Est-ce que ce ne serait pas parce que le Qatar, qui est un grand pourvoyeur de corruption, enfin d'argent pour corrompre nos politiques, est-ce que ce n'est pas parce que le Qatar est derrière ces rebelles que les Français se plient un petit peu aux injonctions du Qatar?
Je ne suis pas expert en la matière parce que ça se passe dans les coulisses. Je n'ai pas de source d'information fiable.
Encore faudrait-il que l'armée française en ait les moyens. On ferme des casernes à tour de bras. Il est question encore de fermer d'autres casernes. On se demande si on va avoir les moyens de garder le Pentagon Charles de Gaulle. Il y a des tas de programmes d'armement qui sont fermés. Or, l'armement et l'armée sont des sources d'emplois énormes, et ne serait-ce que pour notre industrie, etc. Donc, il y a un peu quand même quelques contradictions dans la politique menée par le gouvernement. D'un côté, vouloir toujours plus d'engagement, et de l'autre côté, ne même pas donner les moyens, on n'a même plus les moyens logistiques de nos actions.
Oui, mais ça n'a pas commencé sous Hollande, ça a déjà commencé avant. Je constate seulement que notre François Ier républicain, qui avait des promesses lors de la campagne électorale, oui, eh bien alors dans ce cas-là, on n'a aucune raison d'intervenir en Syrie, on n'en a plus les moyens. Tout bêtement. Alors la France veut entraîner l'Europe, mais les Européens ne sont pas fous. Ils ne suivent pas. De même qu'aucun pays européen ne s'engage au Mali. On est seul.
Alors, l'Angleterre semble vouloir nous suivre dans les livraisons d'armes aux rebelles.
Oui, ils vont vendre des armes. Les armes, on peut les livrer, ça rapporte de l'argent. Et parce que je suppose que les rebelles ont droit à les payer. Et si ce n'est pas les rebelles, c'est le Qatar ou les autres. Mais là, je m'aventure sur un terrain dans lequel je ne suis pas très expert. Mais je reviens toujours à cette question, pourquoi je m'intéresse tellement à Israël? Eh bien, je l'ai dit déjà, parce qu'en ce moment, pour complaire au fascisme et au nazislamisme, puisque l'islamisme est aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qu'était l'hitlérisme et le stalinisme au siècle précédent. Or, on a le sentiment que la France en particulier s'aligne sur les positions de la Ligue arabe.
Il y a une certaine logique à cela, au sens où la France n'est pas encore membre de la Ligue arabe, mais a une population...
Mais on est le porte-parole. Dans tous les votes à l'ONU, elle se comportait comme étant l'un des pays de la Ligue arabe. Et la Ligue arabe, à travers la France, plus particulièrement à l'époque de Chirac, disposait d'un siège permanent au Conseil de sécurité. C'est important.
Peut-être que nos divers gouvernements tiennent compte du nombre de plus en plus croissant de musulmans en France. Il en reste plus qu'à faire
mettre pour nous aussi. C'est pas ce nombre. Ce nombre est la conséquence de la soumission aux États arabes et non la cause. C'est par soumission aux États arabes qu'on accorde des visas d'immigration dans un pays qui n'a plus d'emploi à leur donner. Comprenne qui voudra, et le Français qui veut bosser maintenant, il s'expatrie en Australie ou au Canada ou aux États-Unis, ce qui est un gâchis, parce que c'est quand même la France qui a payé les études de ces personnes-là. Ce sont quand même des personnes qualifiées qui émigrent. Alors nous avons une immigration de personnes qualifiées et une immigration non pas de travailleurs, mais d'allocataires de prestations sociales. Encore une fois, je n'en veux pas à ces immigrés, ils ont raison, on leur fait des cadeaux, pourquoi les refuser? Mais par contre, j'en veux à nos hommes d'État qui agissent ainsi, et j'en veux surtout aux connards d'intellectuels, de journalistes, pour moi, ils sont corrompus, la parole, à croire qu'ils touchent des jetons de présence ou des petits bakchiches dans les ambassades et consulats arabes.
Oui, mais ces manipulations d'informations ne sont malheureusement pas propres à la problématique du Moyen-Orient. Nous parlions du nouveau pape tout à l'heure.
Oui, mais
la photo, juste pour terminer, qui a circulé, où on le montre en présence du général Videla, ben, ce qu'ils ont oublié de dire avant de la diffuser, c'était une photo qui a été prise alors que la dictature n'était... Enfin, Videla n'était plus au pouvoir, il n'y avait plus de dictature. Mais c'est les mêmes techniques de désinformation, toujours manipulées par les mêmes.
Oui, bien sûr. Mais alors, pourquoi cette... Autrement dit, nous assistons... ça fait partie d'une guerre dans laquelle les gauchistes sont les alliés des islamistes. C'est une guerre contre l'Occident, l'Occident marqué par la culture judéo-chrétienne.
Oui, mais tu sais, quand je te parlais, je comprends ton intérêt pour Israël.
Non, mais même, je parle de l'intérêt pour les chrétiens.
Mais je veux dire par là, tout ce que tu peux avancer comme argument, je n'arrête pas de penser à la France, et je n'arrête pas de penser à la situation de notre pays, et je me dis, mais c'est très similaire, finalement.
Mais tout à fait, mais la manipulation générale, il se trouve qu'Israël n'est pas dans le bon camp. Et d'ailleurs, s'il était dans le bon camp, il n'y aurait plus d'Israël. Il y aura un État arabe et puis le monde et les Juifs d'Israël se retrouveraient sur des bateaux, refoulés de tous les pays, ne trouvant refuge nulle part.
Et il n'y aura pas. Ne penses-tu pas que c'est un peu l'avenir sombre qui attend aussi les Français dits de souche ou les
Français, mais absolument.
Ou les Belges dits de souche.
Oui, mais je reviens.
Les Hollandais dits de souche.
C'est pour ça que je m'intéresse à Israël et aux Juifs. Parce que ça commence toujours par les Juifs, mais les Juifs, ou Israël, qui est le symbole de l'État juif, c'est la part que l'on lance au peuple idiot, imbécile, et une fois qu'il mord dedans, il se trouve piégé par les véritables manipulateurs qui sont les islamistes. Vous avez l'Arabie Saoudite, le Qatar, enfin tous les pays du Golfe, et puis d'autre part, il y a la Russie avec qui a aussi ces bons musulmans que sont les chiites iraniens. Voilà.
Et j'ai envie de te poser une question quasi rituelle. À l'aune de tout ça, quel avenir vois-tu pour la France? Comment vois-tu?
Je ne suis pas optimiste. Si j'étais jeune, je m'expatrierais.
À ce point-là?
Ah oui. J'aurais le choix. Ou alors je deviendrais un facho, un terroriste. Comment?
Anders Breivik?
Non, parce que ça, c'est un acte imbécile. Je comprends sa rancœur. Mais d'ailleurs, je ne peux pas, condamner le terrorisme des uns et soutenir le terrorisme d'un Norvégien.
Alors, comment toi, qui t'es battu dans la résistance, on va dire battu pour la France, même si aujourd'hui les gens moquent ce genre d'expression, comment toi, aujourd'hui, peux-tu arriver à la conclusion que si tu étais jeune, tu partirais, alors qu'à cette époque, tu étais jeune, tu es resté, que tu t'es battu. Peut-être n'avais-tu pas
d'abord,
partir,
mais... d'abord, si j'avais pu partir vers les Amériques ou l'Angleterre, je serais parti. Donc, il ne faut pas oublier que l'Europe était devenue une souricière, on était tous prisonniers de cette Europe, il fallait faire avec. Bon, tu sais, on ne choisit pas... Si, je connais, je ne suis pas un belliciste, j'ai toujours eu horreur des armes. Au fond, je suis un pacifiste, mais attention... Je suis plutôt un pacifique, et donc je trouve qu'il faut, si possible, régler le problème à l'amiable par conciliation. Encore faut-il que son adversaire, si je dépose mon arme, il faut que l'adversaire le dépose en même temps. Si je dépose mon arme pendant que l'autre braque son pistolet, je suis un imbécile et un homme mort.
Mais c'est une conclusion triste, finalement, d'entendre ce qu'il dit.
À l'époque, la France avait envie d'être. Pour résister, il faut avoir le soutien de la population et il faut avoir aussi le soutien de réseaux organisés.
Et tu penses que la France n'a plus envie d'être?
La France n'a plus envie d'être. Le moindre scribouillard de Bruxelles, eurocrate et ultra-payé, a le pouvoir de détruire le travail d'une commission parlementaire. C'est comme ça, ça ne sert à rien. Alors, nous sommes obligés d'accepter les Roms qui sont insupportables en vertu de lois auxquelles nous avons souscrit.
C'est un constat vraiment très triste pour conclure cet entretien quand même.
Ah, oui, je crois que
toi qui as résisté, qui t'es battu,
et bien,
qui a servi après dans la cavalerie en Allemagne, etc., tu te retrouves avec cette conclusion, alors que tu as 89 ans, à cette conclusion de dire, ben oui, si j'étais jeune, je partirais. Ben, il y a quelque part, on abandonne le terrain.
C'est un peu comme le sauveteur qui plonge dans l'eau pour sortir un homme en train de se noyer. Mais si l'homme qui est en train de se noyer, qu'on vient sauver, et griffe le sauveteur et dit non, je veux mourir, eh ben le sauveteur, et pourquoi veux-tu que le sauveteur risque sa vie et se noie avec le connard qui veut se noyer?
Je comprends, mais c'est-à-dire que ton conseil aux jeunes générations qui pourraient nous écouter, c'est de dire barrez-vous, c'est un constat
terrible. Non, je ne dirais pas ça, je ne dis pas barrez-vous. Je dirais au contraire, révoltez-vous. Et il y a un vieux connard qui vient de mourir, là, Stéphane Hessel, qui a sorti indignez-vous. Je ne dirais jamais indignez-vous, je dirais révoltez-vous.
Et quelle forme de
alors,
cette révolte?
Alors, forme. On a critiqué Depardieu de s'être délocalisé pour des raisons d'impôts. Ah oui, je crois qu'il faut faire un peu comme l'a fait Gandhi en Inde. On ne peut pas se combattre les armes à la main. D'abord, manifester dans les écoles où on impose la viande halal et où on supprime le porc. J'interdis à quiconque de me l'interdire. C'est là qu'il faut se battre. Dans les écoles, les parents d'élèves au niveau des écoles, imposer l'arbre de Noël. Mais l'Europe a été façonnée par le christianisme. Et d'ailleurs, je comprends les critiques, les calomnies qui courent déjà contre le nouveau pape. Les gauchistes, enfin les anti-occidentaux, en veulent déjà au pape qui a été plus fort, avec moins de divisions que la Russie soviétique. Eh bien, c'est quand même le Vatican qui a fait chuter l'Empire soviétique. C'est la Pologne qui s'est détachée de l'Empire soviétique sous l'influence de l'Église et non pas sous l'influence d'un parti politique de gauche.
Et à part cette résistance dite passive, et parce que malheureusement elle a ses actions limitées aussi, qu'est-ce que tu préconises?
Il faut justement, puisque M. Hessel a dit indignez-vous, ben oui, manifestez votre indignation, mais d'une façon un peu plus énergique. La manifestation contre le mariage pour tous. Oui. Je n'ai rien contre l'union des homosexuels. Je compte des copains et des copines homosexuels qui vivent ensemble et qui n'ont jamais demandé à se marier. C'est quelques milliardaires, un milliardaire qui tient d'ailleurs notre gouvernement en laisse, qui a lancé ça. Il y a une chose bizarre. J'ai lu un communiqué du Grand Orient de France employant des termes injurieux contre ceux qui ont manifesté contre le mariage pour tous. C'était il y a quelques semaines de ça, oui. D'ailleurs, je ne comprends pas. C'est un discours qui a été dicté non par Rue Cadet, qui est le siège du Grand Orient, mais qui visiblement a été dicté par la rue Solferino, qui est le siège du Parti Socialiste.
C'est un peu pareil, hein.
Non, justement, ça ne devrait pas être pareil.
Mais on sait que c'est pareil.
La personne qui prétend unir tous ceux qui étaient pars, autrement dit, on demande à chacun de laisser ses convictions matérialistes ou idéologiques à la porte, et de sorte que des hommes de droite puissent siéger à côté des hommes de gauche.
Oui, bien sûr, et le communisme promettait le bonheur à l'humanité, donc tu sais...
ça a quand même ça a plus ou moins marché, ça marche de moins en moins, mais il se trouve que par le jeu de l'entrisme, les gauchistes et les socialistes ont réussi à s'imposer au Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire au gouvernement du Grand Orient, et voilà que le Grand Orient emboîte le pas à une idéologie et destructrice de je suppose.
Oui, mais il en est aussi le porteur.
Bon, il va y avoir des prochaines élections, ce sont les municipales. Et déjà, voter pour n'importe qui, mais pas pour UMP-PS. Bon, déjà, il y a encore de l'alternative. Mais c'est déjà une façon. Mais c'est aussi de manifester bruyamment. Je ne dis pas, mais par exemple, dans les quartiers où on va te supprimer un arrêt d'autobus à cause de l'insécurité, eh bien, se constituer en milice, non armée, bien sûr, mais puis chasser les voyous. Lorsque dans un train des voyous...
Mais les voyous sont armés. C'est ça le problème. Les voyous sont armés, le peuple est désarmé. Les lois sont extrêmement strictes en France sur l'acquisition.
Il faut savoir se battre contre des gens armés.
Donc, que doivent faire les jeunes? Se former au sport de combat?
Absolument. Absolument. Déjà, il y a des cours d'arts martiaux qui s'y mettent tous et qui s'organisent en groupes de protection dans les trains aux heures aux heures les plus dangereuses. Il faut quand même qu'une jeune fille puisse sortir, ou une femme puisse sortir le soir, rentrer du théâtre par un transport en commun sans avoir peur. Nous excluons pour le moment l'usage des armes, parce que j'estime que nous payons une police et nous payons une armée, c'est quand même pour nous défendre. Mais c'est là la manifestation. Au lieu de défendre les Maliens contre les extrémistes islamistes, commençons peut-être déjà par défendre les Français contre un djihad qui s'exerce à travers des gangs armés, des trafiquants de drogue. Regarde à Marseille le nombre de morts qu'il y a maintenant chaque jour. C'est... Armez-vous, ceux qui peuvent s'arment. Et après tout, il y a des fusils de chasse, il y a pas mal d'armes que l'on peut encore utiliser. Même, je ne sais pas moi, des plombs dans les fesses de quelqu'un, ça ne fait jamais du bien. Je l'ai maintes fois cité, Thucydide, le grand stratège grec quelques siècles avant Jésus-Christ, et il disait que l'épaisseur de la muraille importe moins que la volonté de la défendre. Il faut déjà vouloir défendre. On trouvera ensuite les moyens. Quand on a commencé la résistance, on n'avait aucune arme.
Mais André, merci beaucoup pour cet entretien qui a été riche et qui a abordé énormément de sujets. Je pense que, une fois de plus, les libertinautes vont être très heureux de t'entendre parce que tu fais quand même partie des auteurs phares du site. Et j'espère qu'on aura de nouveau l'occasion de te lire et de t'entendre. À très bientôt.
Merci.